Vous écoutez, on lit pour vous.
La domocratie et le culte du chromosome Y. Un texte de Boucar Diouf, paru le 20 janvier 2024 dans la presse. Si le spermatozoïde pouvait parler, il dirait « Vous savez, la vie d'un spermatozoïde n'est pas de tout repos. Quelques minutes après notre sortie, la très grande majorité des participants sont en train d'agoniser, cuit par l'acidité des voies génitales féminines. Et vous avez beau vouloir faire l'amour et pas la guerre, jamais vous ne pourrez éviter ce génocide cellulaire. » Pour celui d'entre nous qui espère porter le maillot jaune, pédaler rapidement et franchir le col de l'utérus devient la seule solution. En fait, le seul instant de bonheur dans la vie d'un spermatozoïde comme moi, c'est quand il attend en rang serré, avec ses copains, que votre pistolet ne tire son coup final. Autrement dit, les gars, si vous ne voulez pas faire durer les caresses pour faire plaisir à votre partenaire, faites-le au moins pour rallonger les derniers sourires de vos millions de locataires. Les préliminaires sont aux spermatozoïdes sur le bord du corridor, ce que le dernier repas est aux condamnés dans le couloir de la mort. Évidemment, j'ironise ici dans la forme, car il y a beaucoup de mythes dans cette histoire, si populaire soit-elle, dans notre imagination collective. Cette fameuse course, souvent présentée comme une entrevue à 100 millions de CV pour un seul poste à pourvoir, porte une vision très phallocratique de la reproduction. Ici, les spermatozoïdes forment une équipe conquérante et l'ovocyte est présenté comme une belle très passive qui attend sagement de voir arriver le vainqueur sans avoir son mot à dire. Le tout se déroule aussi dans l'appareil reproducteur féminin assimilé à un simple parcours du combattant. Même dans les cours de sciences de ma jeunesse, on nous a professé cette représentation presque caricaturale qui se perpétue encore. Aujourd'hui, on sait que le corps de la femme joue un rôle majeur dans la sélection, la maturation, le déplacement, l'orientation et même le choix et le guidage du spermatozoïde qui va entrer dans l'ovocyte. On sait également que les spermatozoïdes se déplacent bien plus à la faveur des contractions des muscles lisses de l'utérus et des oviductes qu'en misant sur les simples battements de leurs flagelles. Autrement dit, au lieu de se vanter d'avoir été le meilleur combattant sur 100 millions, on devrait parfois dire « Si haut perché que tu sois dans la vie, sache qu'il y a des millions de gens qui se sont sacrifiés pour te donner cette chance. » Cette précision posée, permettez-moi de quitter la physiologie reproductive et d'arriver au cœur de ma chronique qui mélange politique et chromosome Y. Le temps des souhaits de début d'année est presque terminé, mais je voulais quand même vous parler de ces combinaisons génétiques qui permettent à leurs porteurs de partir à une enjambée de la ligne d'arrivée. Sur quelque arbre que ton père soit monté, si tu ne peux grimper, mets au moins la main sur le tronc, dit le proverbe africain. Mais pour aider la descendance à atteindre plus facilement le sommet de l'État, il y a la domocratie, un terme inventé par les Sénégalais pour désigner cette forme d'alternance où le fils, dom en wolof, prend le pouvoir après le départ du papa. De ce fait, détenir la bonne carte génétique donne souvent une longueur d'avance sur le visionnaire qui n'a pas le bon nom de famille. Au moins, dans les systèmes monarchiques, le culte de la famille régnante, qui est là pour l'éternité, a le mérite d'être bien clair. C'est ainsi, par exemple, que je suis devenu un sujet de Charles III, qui a profité de ce privilège bien loin d'une véritable méritocratie. Cependant, dans nos systèmes dits démocratiques, même si on aime nous fredonner une certaine égalité des chances d'accéder au pouvoir, les fréquentes alternances démocratiques nous rappellent que ce n'est pas toujours le cas. En Afrique, par exemple, Ali Bongo au Gabon, Uhuru Kenyatta au Kenya, Faure Gnassingbé au Togo, Joseph Kabila en République démocratique du Congo et Mahamat Idriss Déby au Tchad sont tous des fils d'anciens chefs d'État qui ont gouverné ou sont encore en poste. La démocratie est aussi pratiquée aux États-Unis, terre de prédilection du culte des familles régnantes. Pensons au clan des Kennedy, mais aussi à celui des Bush. Au Canada, elle nous a amené Justin Trudeau et prépare aussi le terrain pour le fils de Jean Charest. Antoine Dionne Charest bénéficie dernièrement d'une couverture médiatique démesurée et d'un engouement qui, il faut l'avouer, doit beaucoup au fait qu'il est le fils de l'autre. Entendons-nous bien, même si cette excellente visibilité m'interpelle, je n'ai rien contre ce jeune homme et je lui souhaite toutes les chances du monde. Je crois aussi qu'il prendra le temps de faire ses classes, car il a un indéniable sens du discernement. Cependant, comme Justin Trudeau avant lui, le pouvoir semble plus solidement codé dans son chromosome Y. Que voulez-vous? On n'a pas vraiment besoin de souhaiter à un éléphanteau d'être gros quand il sera grand, disait mon grand-père. Tous les êtres humains ne naissent pas libres et égaux en dignité et en droit. Il faut simplement regarder le sort réservé aux migrants pour s'en convaincre. À mon avis, il n'y a pas de plus grosse bullshit planétaire que cet article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le continent, le pays, le quartier, la famille et même le spermatozoïde d'où l'on vient déterminent en grande partie les chances et les privilèges auxquels on aura droit dans cette course pour la vie et pour le pouvoir politique aussi. C'était « La démocratie et le culte du chromosome Y », un texte de Boukhar Diouf, paru le 20 janvier 2024 dans la presse.
Comment se portera le marché de l'emploi? Un texte de Carl Rettino-Paracelli, paru dans la revue L'Actualité, édition mars 2024. Les travailleurs ont le gros bout du bâton dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ils peuvent généralement choisir le poste qui leur plaît et on l'écoute des employeurs lorsque vient le temps de négocier leurs conditions de travail. En période de ralentissement économique, les possibles licenciements et fermetures d'entreprises pourraient modifier ce rapport de force. Scénario probable, un taux de chômage qui va monter. Citation : Le levier de négociation des travailleurs n'est pas celui qu'il était il y a 2 ans. On pense donc que la hausse des salaires va éventuellement ralentir. Fin de citation, prédit Jimmy Jean. La pénurie de main-d'œuvre demeure, mais le taux de chômage monte depuis plusieurs mois. À un creux de 3,9% en janvier 2023, il a atteint 4,7% en décembre. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre cette année dans un contexte de croissance économique anémique ou négative, estime M. Abraham, dont les travaux s'intéressent notamment au marché du travail. Citation : La demande pour les travailleurs va ralentir parce que les entreprises vont avoir moins de marge de manœuvre pour recruter. Fin de citation, dit-elle. Avant de licencier des gens, les employeurs aboliront des postes vacants. Leur nombre, qui avoisinait les 200 000 au deuxième trimestre de l'an dernier, devrait continuer à fondre. Desjardins, la BNC et la BMO prévoient un taux de chômage moyen oscillant entre 5,7 et 5,8 % en 2024, encore loin du taux moyen de 8,6 % atteint en 2009 en pleine récession. Selon leur secteur d'emploi, il se pourrait toutefois que les travailleurs qui se cherchent du boulot aient à distribuer plus de CV, signale Jimmy Jean. Citation : Ce ne sera peut-être pas aussi facile de trouver un emploi que dans les 2 ou 3 dernières années. Fin de citation, avance-t-il. Cela dit, le manque de travailleurs exacerbé par le vieillissement de la population ne disparaîtra pas comme par magie. Citation : Même avec un ralentissement économique, les difficultés de recrutement sont là pour perdurer. Fin de citation, affirme M. Abraham, particulièrement dans les secteurs qui ont souffert pendant la pandémie, comme la restauration, l'hébergement et le commerce de détail. Ce sera aussi le cas pour des domaines en manque de main-d'œuvre avant la crise sanitaire, comme celui de la construction, relevait l'économiste principal de Desjardins, Florence Jean-Jacobs, dans une analyse publiée en novembre dernier. Scénario moins probable, un taux de chômage qui va rester bas. Il n'est pas impossible que le taux de chômage se maintienne à un niveau relativement bas, croit Emna Braham. Mais cela pourrait camoufler le fait que des employeurs marqués au fer rouge par les difficultés de recrutement des dernières années décident de garder leurs employés en attendant la reprise économique, estime l'économiste. On éviterait ainsi des mises à pied, mais peut-être pas une réduction des heures travaillées, dit-elle. Citation. Pour les travailleurs, ça pourrait vouloir dire moins de revenus. Fin de citation. Même si les mises à pied pourraient être somme toute limitées, Emna Braham se pose des questions concernant la qualité des emplois qui pourraient diminuer en 2024. Pendant la pandémie, beaucoup de Québécois sont passés de postes peu rémunérés, restauration, hébergement, commerce de détail, à des emplois plus payants, administration publique, services professionnels, etc., note-t-elle. On pourrait maintenant assister à la dynamique inverse. Citation. Si je perds un emploi bien payé dans les prochains mois, je pourrais sûrement m'en trouver un autre, mais possiblement moins bien payé, affirme l'économiste. Ce sera une tendance à surveiller. Fin de citation. Scénario improbable, une résolution de la pénurie de main-d'œuvre. Oui, la pénurie de main-d'œuvre pourrait être atténuée dans certains secteurs si les annonces de licenciements se multiplient en 2024, mais les employeurs n'auront pas soudainement accès à un large bassin de candidats potentiels, souligne Emna Braham. Citation. Il ne faut pas s'attendre à une situation d'abondance de travailleurs. Fin de citation, tranche-t-elle. C'était « Comment se portera le marché de l'emploi ?» un texte de Carl Rettino-Paratielli, paru dans la revue L'Actualité, édition mars 2024.
Michel Doré. Des mots pour guérir les mots. Un texte de Serge Fizette, paru le 28 novembre 2023 dans le magazine Fugue. C'est par cette simple formule que l'on pourrait aborder le parcours professionnel remarquable de Michel Doré. Ces mots, ils prennent tantôt la forme d'écrits, articles, essais, livres, mémoires, chroniques. Tantôt, ils se font parole lors des congrès ou colloques auxquels il est invité, ainsi que dans les médias partout dans la francophonie. En ce qui concerne les mots à soigner, ils vont des abus sexuels des garçons à la prévention du sida chez les jeunes marginalisés, de l'exploitation sexuelle des mineurs aux stigmatisations sociales issues des préférences sexuelles ou du genre. Cette propension à porter secours à autrui. Michel Doré en a d'ailleurs fait l'objet d'un livre, « Le métier d'aider ». Apprendre à dissocier le symptôme, écrit-il, qui est la partie visible du problème de sa partie cachée, la plus importante, comme dans le cas des icebergs, permet de travailler avec plus d'efficacité. Dissocier la personne de son problème empêche de l'étiqueter en raison de ce problème, ce qui encourage sa résilience. Détenteur d'un doctorat en service social et d'un postdoctorat en sociologie et anthropologie, il œuvre d'abord comme travailleur social en protection de la jeunesse durant une douzaine d'années, principalement auprès de jeunes LGBT et d'enfants ou adolescents victimes d'exploitation sexuelle. Actif dès les années 1970 dans la promotion des droits et libertés, il a aussi défendu en tant qu'expert la première cause de discrimination envers une personne transsexuelle. Il a collaboré ou milité au sein de plusieurs organismes LGBTQ+, des toutes premières associations universitaires des années 1970 au Gris Québec, il y a à peine quelques années. Devenu professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, il y a enseigné durant 24 ans. Il a également été consultant à la scénarisation de films et de téléséries et chroniqueur à la radio et à la télévision. Lors de l'émission Les Années Lumière, il a rappelé que l'être humain, contrairement aux autres animaux, est à la fois 100% naturel, est 100% culturel. Il faut donc tenir compte à la fois de la biologie de l'humain, qui détermine le sexe à la naissance, et du contexte social dans lequel il évolue, qui détermine le genre et la perception du genre. Une complexité pour les chercheurs. Au cours des ans, les instances gouvernementales feront souvent appel à ces services. Ainsi, il présentera un mémoire devant la Commission spéciale de l'Assemblée nationale du Québec sur l'exploitation sexuelle des mineurs et un autre intitulé « Quelques pistes de prévention pour se défaire de l'intimidation à l'école » dans lequel il avance que « l'intimidation est devenue une activité attractive dans la mesure où les intimidateurs ressentent pouvoir et supériorité sur leurs victimes et reçoivent de surcroît respect et encouragement de la part de pairs. De même, il sera membre du comité expert nommé par la ministre de la Justice du Québec sur le soutien aux victimes de violences sexuelles, comité ayant déposé le rapport « Rebâtir la confiance » en décembre 2020. Spécialiste de renommée internationale, il donnera de nombreuses conférences ici et à l'étranger. Il sera impliqué durant presque 30 ans comme coordonnateur scientifique aux formations de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, sur la diversité sexuelle et de genre. En 2019, à l'UQAM, il a fait partie du colloque du lieutenant-gouverneur du Québec, 50 ans de changement juridique visant l'inclusion citoyenne. Dans sa communication sur la décriminalisation de l'homosexualité, une révolution sociologique, Michel Doré a souligné que, dans les collèges et les universités, la relève en études et recherches LGBT+, est aujourd'hui très prometteuse car elle renouvelle notre vocabulaire et nos concepts, notamment en sortant complètement du modèle binaire. Plus récemment, en 2022, il a participé en France au colloque « Inceste, les garçons aussi ». En plus d'avoir écrit dans nombre de périodiques, il a fait paraître plus d'une trentaine d'ouvrages, certains traduits en anglais, italien, portugais et bulgare. Certains rédigés avec divers collaborateurs comme Éric Verdier, Patrice Corriveau et Jeannette Bertrand. Parmi les sujets abordés, la condition LGBTQ+, et la condition masculine, l'homophobie, la diversité sexuelle et de genre, le suicide chez les garçons et la sexualité comme relation ou comme spectacle. Dans « Les cow-boys de la nuit, travailleurs du sexe en Amérique du Nord », l'auteur nous fait découvrir une réalité méconnue, souvent clandestine, et plus complexe qu'on ne le croit généralement. Car le plus vieux métier du monde n'est pas le mieux compris, surtout quand ce sont des hommes qui l'exercent. Quant à « Ça arrive aussi aux garçons », l'abus sexuel au masculin, il est considéré comme un livre fondateur. Le chroniqueur Éric Paquin précise « Traçant le profil des violeurs et du contexte ayant facilité leur crime, Doré rappelle l'extrême complexité du traumatisme vécu par les victimes et les stratégies que celles-ci adoptent pour y survivre, proposant finalement quelques pistes permettant de briser le silence sur le phénomène. » Rappelons que Michel Doré a reçu plusieurs prix, dont le diplôme de l'Amicale gay et lesbienne autonome des enseignants, Aglaé 2001, le grand prix du Conseil québécois des gays et lesbiennes en 2012 et récemment le prix Hommage académique de la Fondation Émergence, soulignant son implication et sa contribution dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Aujourd'hui, à la retraite de l'Université Laval, il enseigne en formation continue sur les réalités LGBTQI+, en milieu de travail, et collabore à de nouveaux programmes de prévention de l'exploitation et des agressions sexuelles. C'était Michel Doré, des mots pour guérir les mots, un texte de Serge Fizette, paru le 28 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
Bien plus qu'une simple sauce poisson. Un texte de Sophie Média-Villa-Rivard, paru le 19 décembre 2023 dans le magazine Caribou. Après près de 10 ans de recherche et d'essais-erreurs, Anne et Jim Nguyen peuvent enfin se dire prêts à commercialiser la toute première sauce poisson 100% locale. Le projet de ce couple néo-québécois d'origine vietnamienne a pris forme dans les Maritimes en 2014 avec le désir de valoriser les ressources du territoire québécois. Anne et Jim Nguyen n'avaient aucune expérience dans le domaine de la restauration ni de l'alimentation. Mon mari est en informatique et moi, je suis en fiscalité, explique Anne, qui n'avait jamais envisagé se lancer dans une telle entreprise. Pourtant, leur sauce poisson québécoise sera mise sur le marché dès le mois de novembre et le projet est déjà appelé à prendre de l'expansion. Actuellement, dans la dernière ligne droite avant le lancement, les créateurs travaillent à donner une image de marque unique à leur sauce Nuakmam locale. Tout a commencé en 2014, lors d'un voyage dans les Maritimes, où ils ont visité un barrage hydroélectrique sur la rivière Saint-Maurice. Ils ont constaté que les infrastructures d'Hydro-Québec empêchaient le passage normal des poissons et causaient beaucoup de dégâts. En effet, les barrages hydroélectriques modifient considérablement les cours d'eau et par conséquent les dynamiques des espèces aquatiques. Ils ont été frappés par le gaspillage de ces poissons qui mouraient dans les barrages et qui étaient directement transportés vers des sites d'enfouissement pour en faire de l'engrais. L'inspiration est alors venue, accompagnée d'un désir de revaloriser les ressources alimentaires. Mon premier réflexe, ça a été de dire à mon mari, « Chez nous, on ferait de la sauce poisson avec tout ça, parce qu'on est d'origine vietnamienne et que c'est un produit de base pour nous. » Si aujourd'hui, le poisson utilisé dans la Nuakmam d'Anne et Jim Nguyen est un capelan du fleuve Saint-Laurent et non pas récolté aux abords d'un barrage hydroélectrique, l'idée originale reste la même. Mettre à l'honneur des ingrédients locaux de façon durable et éco-responsable dans un produit issu de leur culture d'origine. Travail de longue haleine. Anne et Jim ont commencé par approcher un chercheur du département agroalimentaire de l'Université McGill qui a accepté de se lancer dans les études, la recherche et le développement de leur projet. Ça a pris environ 8 ans pour arriver à une sauce correcte, raconte Anne, puisqu'aucune connaissance n'existait sur le sujet au Québec. Dans l'Atlantique et le Pacifique, les espèces de poissons sont différentes, les compositions protéiques aussi. Parmi les partenaires de cette quête vers la recette parfaite, il y a les pêcheries Charlevoix. L'entreprise utilise la très ancienne technique de pêche à la fascine. Anne et Jim sont venus pêcher avec nous et ils ont vu de quelle façon on pêchait le poisson. Ils ont aimé la durabilité de la chose, l'aspect familial. Ils ont décidé d'utiliser le caplan pour faire leur développement de sauce poisson à l'Université McGill, se souvient Julie Gauthier, propriétaire des pêcheries Charlevoix. Chaque année, l'entreprise a livré 100 de livres de caplan pour permettre au couple de poursuivre ses tests. Tout au long de ce travail de grande ampleur, ils ont été motivés par un souhait de revaloriser les ressources du Québec. La sauce poisson sur le marché aujourd'hui est importée exclusivement de l'Asie. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. « Quelle sorte de poisson argue la femme qui habite à Longueuil ?» Le produit a finalement été présenté pour la première fois au Salon Fourchette Bleue en février 2023 qui promeut les ressources maritimes du fleuve Saint-Laurent. Alors disponible en très petite quantité, la sauce Nuakmam a instantanément séduit le public et propulsé ses créateurs vers un succès inattendu. Des efforts récompensés. Des mois après le salon Fourchette Bleue, Julie Gauthier se fait encore approcher par des gens qui désirent se procurer la fameuse sauce poisson locale. Les quelques bouteilles qui étaient vendues à la boutique de pêcherie Charlevoix sont parties en un clin d'œil. Ça a été un succès fou. Je ne sais pas si Anne s'y attendait, parce que pour eux, La sauce poisson, c'est un produit de base alimentaire, soutient-elle. Pour nous, c'est un produit plus exotique, mais qui est maintenant fait avec des ingrédients d'ici. Donc, on est renversé d'arriver à un produit comme ça, confie Julie Gauthier. Heureuse victime de cette frénésie autour de leurs produits, le couple néo-québécois travaille maintenant à rendre accessible la sauce Nuoc Mam à un plus large public. Avec l'aide du Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe, CRD Saint-Hyacinthe, ils planifient déjà d'augmenter les volumes de production avec toutes les installations et l'équipement que cela implique. C'est d'ailleurs dans les infrastructures du CRD Saint-Hyacinthe que la sauce poisson est produite et embouteillée. On va essayer de répondre à la demande de tout le monde, mais l'entreprise est encore très petite. On demande la patience du public parce que pour prendre les dispositions nécessaires, ce ne sera pas demain, mais probablement l'année prochaine, avance Anne. Les produits de leur entreprise nommée KLKT sera notamment disponible chez Racine Boréale, site web racineboréale.ca et chez Boulet Épicerie québécoise, site web chez boulet.com. Traverser le Pacifique. D'origine vietnamienne, Anne et Jim Nguyen sont arrivés au Québec à la fin des années 1970 avec les Boat People. Nous avons recommencé notre vie ici, partage Anne Nguyen. Avec cette sauce poisson, ils transportent un peu de saveur de leur Asie natale dans les assiettes de leur terre d'adoption. Anne espère que les Québécois sauront adapter la sauce Nuoc Mam à la cuisine traditionnelle. Il faut dissocier la sauce Nuoc Mam des pâtes fraîches, des riz frits, des rouleaux, par exemple. C'est bon, je n'ai rien contre ces plats-là, mais il faut adapter la sauce à la cuisine québécoise, n'ayez pas peur. Elle vante sans demi-mesure la versatilité et le goût savoureux de ce condiment, rehausseur de saveur. On va pouvoir dire mission accomplie quand les Québécois vont mettre de la sauce Nuoc Mam dans leur pâté chinois, s'exclame la créatrice. C'était bien plus qu'une simple sauce poisson, un texte de Sophie Media Villa Rivard, paru le 19 décembre 2023 dans le magazine Caribou.